Bonjour et bienvenue dans le studio d'Anne Clarisse. Aujourd'hui, nous allons faire un zoom sur l'un des points infos traités dans mon podcast numéro 1. Dans ce zoom, je vais détailler beaucoup plus les enjeux de la retraite actuellement. Je vais parler dans ce zoom des principaux enjeux. Tenez bien compte que chaque enjeu est particulier à chaque retraité. Même si je vais citer les enjeux principaux, la situation ne peut être envisagée qu'en partant de cas précis qui découlent de situations bien spécifiques et très personnelles à chaque individu. Le premier point que l'on constate lors de nos interventions, c'est que nous sommes souvent devant des retraités qui touchent une toute petite retraite et qui sont très inquiets par leur pouvoir d'achat. D'après une étude du 16 avril 2021 menée par le CSA, Consumer Science and Analytics, voici la perception que les retraités français ont de leur pouvoir d'achat. Et je cite « Depuis votre départ à la retraite, diriez-vous que votre pouvoir d'achat a diminué, augmenté ou est resté stable ?» Sans surprise, à cette question, près de 7 retraités sur 10 estiment que leur pouvoir d'achat a diminué depuis leur départ à la retraite. Et les retraités pensent que cela ne va pas s'arranger avec le temps. 6 retraités sur 10 redoutent une baisse de leur pouvoir d'achat dans les prochaines années. Fin de la citation. Voilà donc le contexte dans lequel évoluent les retraités. Une situation de stress permanent et une forte inquiétude sur leur présent et leur avenir. Et certains ont essayé de remédier à cette situation par une voie légale. Par exemple, certains viennent nous voir et ils nous commandent qu'ils n'ont que 1000 euros de retraite et qu'après avoir payé leurs charges, finalement, ils ne peuvent pas joindre les deux bouts à la fin du mois. Ils nous racontent que pour trouver une solution à cette situation, ils ont fait une activité annexe. Mais cela les oblige à faire des déclarations et les replonge dans une ambiance de travail liée à de mauvais souvenirs. Ils finissent par nous avouer qu'ils sont inquiets car ils ne veulent pas perdre leurs droits. Et ils sont toujours dans la préoccupation que leur revenu complémentaire ne soit pas trop élevé pour ne pas mettre en danger leur retraite. Ils ne sont jamais tranquilles, alors que c'est tout l'effet inverse qu'ils voulaient atteindre en prenant cette activité annexe. Ils ont donc fini par arrêter leur activité pour se retrouver à la case départ. Cette problématique découle sur une autre. C'est que des retraités qui, après avoir testé la situation expliquée plus haut et s'être rendu compte qu'ils ne souhaitent plus se compliquer l'existence avec un système de type salariat et des prestations de services, des facturations, des déclarations et des fiches d'impôts, etc., ils en arrivent souvent à conserver ces activités sans les déclarer. Cela pose un gros problème, parce que quand il s'agit de petites sommes et que c'est de manière occasionnelle, tout va bien. Mais dès qu'il s'agit de situations récurrentes, comme c'est souvent le cas, alors ces retraités se retrouvent dans l'illégalité. Et lorsque l'État verse de l'argent pour une retraite, alors les individus sont vraiment observés. Et nous voyons plusieurs cas de personnes qui touchaient des sommes non déclarées et qui ont été rattrapées plus tard pour se faire finalement recaler par les impôts. Tout cela va poser une espèce d'aura négative autour du retraité et un climat suspicieux va rôder autour de lui et le remet dans une situation psychologique déprimante. Donc voilà, la problématique c'est que quand on a une petite retraite et qu'on veut la compléter, aujourd'hui dans la société française particulièrement, c'est compliqué. L'objectif, c'est de rester dans la légalité et également pouvoir arriver à la solution qu'on voudrait atteindre, c'est-à-dire avoir un peu plus d'oxygène au niveau économique. Et pour atteindre cet objectif, l'État ne facilite pas les choses aux retraités. On leur fait comprendre qu'ils ne sont plus actifs et que donc ils restent bien sagement dans la case retraités. Et comme je le dis souvent, les retraités ont des compétences, car c'est vraiment des personnes qui ont des acquis soit professionnels, soit d'expérience de vie, qui permettent justement de rendre ces petits services. Lorsque nous nous retrouvons devant ces retraités qui nous expliquent leur situation, nous avons affaire à des personnes dont le statut est la retraite et qui cherchent des solutions à des retraites précaires face à un coût de la vie chaque fois plus élevé et à des situations familiales qu'ils ne peuvent pas soutenir. Ces personnes évoquent avec nous leur tristesse et souvent leur détresse. Mais même si elles souhaitent rester actives avec un clair souhait de vouloir venir en aide, de ne pas vivre ce sentiment d'être parquées par la société, de se sentir utile et surtout de pouvoir s'assumer tel qu'ils l'ont toujours fait, elles ne veulent néanmoins pas entrer dans une ambiance d'auto-entrepreneuriat où elles vont devoir déclarer des activités annexes. Bien souvent, tous les retraités qui nous contactent sont des personnes encore très dynamiques et elles désirent vivement rester actives et trouver des solutions, mais qui ne les obligent pas au poids administratif de la vie professionnelle. Nos équipes peuvent leur offrir des solutions, mais cela va nécessiter une étude précise de leur situation. Comme je l'ai dit plus haut, il existe autant de situations que de personnes. Nous allons donc analyser leur fiscalité pour ne pas la perturber. Car nous pensons qu'une retraite, ça représente des années de travail pendant lesquelles ces personnes ont cotisé et qu'elles méritent donc de toucher leurs droits. Notre première démarche va donc consister, après analyse, à protéger la personne dans ses droits. Notre deuxième démarche va être d'étudier avec le retraité ses besoins et ses souhaits pour mettre en place un plan qui va lui offrir des options qu'il n'avait pas envisagées pour qu'il puisse garder une activité complémentaire mais sans être pénalisé au niveau de sa retraite. Une des principales options que l'on va développer avec lui, c'est son intégration dans une structure de société de laquelle il va devenir actionnaire. Il ne s'agit donc plus du tout d'auto-entrepreneuriat. Dans cette structure, le retraité va intervenir comme actionnaire qui va pouvoir aider au développement de par ses expériences. Mais il ne va pas porter le poids de la gestion administrative de la société qui sera, elle, gérée par des personnes plus actives. Cependant, il va pouvoir à travers cette structure facturer des petites prestations de services. Dans la plupart des cas, nous allons lui conseiller que cette société ne soit pas en France. En Europe, certes, mais pas en France. Ceci afin que son pays de résidence fiscale soit toujours la France, qu'il conserve son statut de retraité dans le pays dans lequel il a cotisé et qu'il puisse avoir des actions dans une société étrangère européenne pour y apporter ses compétences sans que cela l'oblige à déclarer cette activité dans ce pays puisqu'il est loin de rentrer dans les standards de revenus annuels minimum qui l'obligeraient à faire une déclaration d'impôt. Son type de rémunération sera en général de type dividende et non pas un salaire. Alors, le résumé de la première problématique, c'est un retraité qui dispose d'une petite retraite qu'il souhaite complémenter sans se compliquer ni déséquilibrer ses droits. Et ce retraité se sent encore avec l'énergie de contribuer, à aider et à apporter ses compétences. Le deuxième point que l'on constate souvent avec une personne retraitée, c'est que dans de nombreux cas, elle est propriétaire d'un bien immobilier ou de plusieurs. D'ailleurs, dans la même étude du CSA soulignée au début de ce podcast, il est communiqué que les retraités sont détenteurs d'un patrimoine immobilier important. Je cite « Les retraités concentrent l'essentiel du patrimoine, notamment immobilier », explique Xavier Terrain, directeur du Pôle Connect de l'Institut CSA. En effet, 69% des retraités sont propriétaires de leur résidence principale et 14% sont également propriétaires d'au moins une résidence secondaire. Parmi eux, la quasi-majorité, 92%, a fini de rembourser son emprunt immobilier. Par ailleurs, depuis leur départ à la retraite, 16% des retraités ont reçu un héritage. Fin de la citation. Ce n'est pas très étonnant ce constat, car la société nous invite à cela. Pour faire un résumé grossier, le schéma sociétal, c'est de passer son enfance et son adolescence avec ses parents, en fin d'adolescence d'entrer en études supérieures, vers 24-25 ans d'entrer dans la vie active et c'est sûrement mieux vu d'être en couple également, et vers 30 ans de songer à se marier et de faire un emprunt immobilier pour devenir propriétaire et offrir un toit à sa famille. Entre 62 et 65 ans, vous prenez votre retraite et vous vous occupez de vos petits-enfants tout en faisant quelques activités qui vous occupent. Et lorsque vous n'êtes plus capable de vous assumer, vous êtes orienté vers les EHPAD. Évidemment, dans cette structure bien tracée, tout parcours va être unique. Mais la structure sociétale est la même pour un bon nombre d'entre nous. Alors, si nous analysons avec un peu plus de conscience vers quoi la société nous dirige en termes de logement, nous constatons qu'elle nous encourage à devenir propriétaire lorsque nous devenons solvables. Car vous travaillez probablement depuis 4 ou 5 ans lorsque vous allez acquérir votre premier bien. Vous allez emprunter à une banque qui va vous constituer une hypothèque sur le bien que vous allez acheter en s'assurant que le prêt n'aille pas au-delà de 30 ans pour que vous soyez dans une tranche d'âge considérée toujours solvable. Cette même banque va prendre un minimum de risque en garantissant son prêt sur le bien que vous achetez et en demandant un cautionnaire qui sont bien souvent vos parents. Avec ce cocktail, elle va chercher à bien rentabiliser l'argent qu'elle vous prête tout le long de votre emprunt. Non seulement elle va veiller sur ce point, mais elle va également s'assurer que tant que vous n'avez pas payé la totalité de l'emprunt, vous ne soyez pas propriétaire de ce bien. Donc, c'est insidieux, car la société vous encourage à devenir propriétaire et la plupart des personnes pensent qu'elles le deviennent à la signature de l'emprunt. Et en fait, pas vraiment. Elles le deviennent après avoir réglé l'emprunt seulement, c'est-à-dire 15 ou 30 ans après la fameuse signature. Et que s'est-il passé pendant ces 15 et 30 ans ? Pour la banque, c'est assez simple. Je vais prendre un exemple juste pour mieux me faire comprendre et surtout que vous puissiez bien observer le mécanisme. Les chiffres que je vais annoncer sont indicatifs, bien sûr, et la réalité de votre emprunt ou bien de celui que vous allez faire à l'avenir dépendra des conditions que vous avez obtenues ou que vous obtiendrez avec votre banque. Mais cela sera assez proche de l'exemple. Vous achetez un bien de 230 000 euros en empruntant sur 20 ans. Votre bien, au bout de 20 ans, vous aura coûté 385 000 euros avec des mensualités de 1 600 euros à la banque. Et comme vous avez réglé le notaire à l'achat pour un montant de 8% de la valeur du bien, vous avez donc versé 18 400 euros. Ce qui fait que votre bien vous a coûté au total 403 400 euros en réalité. Qu'est-ce qu'observent la plupart des personnes lors de l'acquisition d'un bien ? Premièrement, qu'elles n'ont pas les fonds et c'est pourquoi elles vont faire un emprunt. Ensuite, elles vont surtout regarder qu'elles sont capables de régler les mensualités. Enfin, je vous rassure, la banque aura fait cette analyse avant elles. Enfin, elles signeront sans vraiment regarder autre chose. En fait, il n'y a pas de réel besoin de regarder autre chose, mais cet exercice sert principalement à ce que vous repériez les mécanismes dans lesquels vous entrez lorsque vous jouez le jeu auquel la société veut que vous jouiez. Car l'option d'être locataire plutôt que propriétaire va nourrir exactement le même système, sauf que vous allez participer au paiement de l'emprunt du propriétaire à qui vous louez le bien. Et cet exercice permet également simplement de mettre de la conscience dans ce que vous faites, et ce sur du long terme, que vous leviez un peu la tête pour voir l'horizon plutôt que de voir le court terme dans lequel vous plonge la société. Savoir, connaître, c'est faire des choix conscients, c'est maîtriser le jeu. Ne pas être conscient, c'est faire des choix suggérés, c'est subir le jeu. Alors, dans la réalité, lorsque vous empruntez pour un bien de 230 000 euros, vous le payez à la fin environ 7,6% plus cher. Dans notre exemple, 173 400 euros plus cher. C'est une somme. Comme je vous l'ai dit, il ne s'agit pas de vous conseiller de ne pas le faire, bien au contraire. Il s'agit de voir comment l'État, à travers la banque et ses collecteurs, se nourrit. Car l'exemple apporté, c'est dans le cas où vous achetez et vous restez dans ce bien jusqu'à en être totalement propriétaire. Or, selon une statistique de l'INSEE, qui dans son étude sur les conditions de logement fin 2013, dit « Un ménage sur quatre déclare vouloir changer de logement ou y être contraint ». Alors l'étude a été réalisée sur 2013, certes, mais elle indique une tendance forte qui reste sensiblement la même pour les années suivantes. Toujours en 2013, un professionnel de la finance avec une expérience de plus de 19 ans dans ce domaine, publiait dans un article le 20 juillet 2013 que, et je cite l'article, « En France, la durée moyenne de détention d'un bien immobilier oscille entre 8 à 10 ans, suivant le contexte du marché, crise ou dynamique, suivant la nature du bien immobilier. Par exemple, pour un bien acheté neuf, la durée de détention est plus longue que dans l'ancien, plus souvent utilisé en achat tremplin. Et suivant le profil de l'acquéreur. Êtes-vous un primo-accédant au début de son parcours résidentiel ? Et qui a donc devant lui un ou deux achats immobiliers à venir, ou plutôt un senior arbitrant son patrimoine en fonction de ses besoins. » Fin de la citation. Ces chiffres montrent simplement que vous ne resterez probablement pas dans ce bien pendant les 20 ans de la durée de votre crédit. Au bout de 8 à 10 ans, vous déciderez de changer de logement, ce qui implique des coûts supplémentaires de remboursement par anticipation et autres. Et si vous quittez votre logement, ce sera pour en acheter un autre, très probablement. Et donc, à la fin des 20 ans, très certainement, le pourcentage du coût de l'achat de votre ou de vos biens sera encore plus important que les 7,6% annoncés plus haut. Cela renforce encore plus le fait que dans un emprunt, la banque prend très peu de risques et que ce business est très lucratif pour elle et pour l'État, car les clients sont toujours là. Et c'est le jeu. Un autre point de la réalité, c'est que lorsque vous signez votre emprunt, vous vous félicitez d'être enfin propriétaire. Mais ça n'est pas vrai. Vous ne le saurez qu'au bout de votre emprunt. En attendant, vous avez un toit qui, en théorie, prend de la valeur tous les ans, ce qui, en partie, devrait payer le coût de votre emprunt. Ceci si vous êtes resté les 20 ans de votre crédit, ce qui ne sera probablement pas le cas. Donc, pendant votre emprunt, dans l'exemple, la banque, elle, s'assure 1600 euros tous les mois pour une somme prêtée de 230 000 euros sur 20 ans, c'est-à-dire 958 euros par mois, ce qui lui fait un montant de 642 euros par mois pour faire fructifier cette somme, et ce, pendant 20 ans. Si nous multiplions cela par le nombre d'emprunts que fait une banque à l'année, je vous laisse imaginer la rentabilité que cela comporte pour elle. Un véritable marché. Donc, plus de personnes joueront ce jeu, plus cela sera rentable pour elle. Sans compter tous les produits annexes dérivés que la banque vous vend lors de l'emprunt et sur lesquels elle gagne encore plus. Assurance vie, assurance logement, pénalité de non-remboursement, agio et j'en passe. Et ces produits, vous les prenez parce que la banque vous fait croire que son taux de prêt est incroyablement compétitif. En général, plus le taux est compétitif, plus elle gagne sur ses produits annexes, mais sans vous le dire. Mais il ne s'agit pas là de critiquer les banques et les marchés dont elles profitent, mais plutôt de vous faire réagir afin que vous puissiez manier au mieux les règles de ce jeu pour que vous profitiez également de ce même marché. Et c'est possible. Je reprends mon analyse. La société vous encourage donc à l'acquisition d'un bien autour de vos 30 ans, s'assurant ainsi une durée de vie d'emprunt avec une personne solvable et avec des garanties sur le bien et également sur des cautions s'il le faut. Et j'en arrive à une autre prise de conscience. La société vous oriente vers l'achat de vos biens en nom propre, c'est-à-dire que ce bien est au nom de personnes physiques, d'une personne seule ou bien d'un couple. Et cela, la plupart des personnes que nous rencontrons sont dans ce cas, qu'ils soient retraités ou pas d'ailleurs. Quelle est la problématique pour la personne d'avoir son bien en nom propre? Eh bien, principalement, cela est très fragilisant pour elle. Car, quoi qu'il arrive à cette personne, quel que soit le souci qu'elle aura pendant son parcours, et 20 ans c'est long, et tant que son emprunt est encore actif, eh bien c'est son bien qui servira d'écran. Et ceci plus rapidement qu'on ne l'envisage. Nous rencontrons de multiples cas de personnes en difficulté temporaire, soit à cause d'un chômage, soit à cause d'un accident, soit à cause d'une maladie, peu importe la cause. Ces personnes ne sont plus solvables pendant cette période. Et je vous assure que la banque n'est pas tendre pour ces situations. Et très vite, elle va aller taper sur les cautionnaires s'il y en a, et sinon, elle va menacer la saisie du bien pour ne pas fragiliser sa rentabilité. Elle peut le faire si le bien est en nom propre. Par contre, si cela n'est pas le cas, et si la personne a eu l'intelligence d'acheter son bien en SCI, Société Civile Immobilière, alors cela va être beaucoup plus compliqué de le saisir. Ce point ne concerne pas uniquement les retraités. Nous rencontrons énormément de personnes qui sont propriétaires en nom propre, et après analyse précise, nous allons leur montrer comment faire pour que ce bien ne soit plus au nom d'une personne physique, mais au nom d'une SCI. Ceci afin de protéger son patrimoine et justement d'éviter au maximum les saisies en cas de coup dur. Le troisième point échangé avec les personnes retraitées que nous rencontrons, c'est leur succession. C'est une des préoccupations majeures pour elles, en dehors de leur pouvoir d'achat dont nous avons parlé avant. En effet, elles aiment pouvoir avoir l'idée de partir tranquille. Et un des points qui les préoccupe, c'est leur testament et à travers cela, leur succession. Et elles ont bien raison de s'en inquiéter, car la succession est un sujet complexe et très technique. Et ce qui est particulier dans ce sujet, c'est que pour trouver des solutions aux nombreux points qui les inquiètent, nous allons leur conseiller de nous réunir avec leurs héritiers. C'est indispensable. Alors au début, ça choque un peu, car elles aiment bien faire cela sans en parler à leurs enfants, histoire de ne pas les déranger. Seulement, à ne pas vouloir les déranger avant leur départ, de nombreuses familles rencontrent de très sérieux problèmes au moment de l'héritage. Et les enfants n'ont pas plus le souhait qu'eux de parler du départ de leurs parents, de leur vivant. Pourtant, lorsque ceci n'est pas traité avant le départ, les surprises se multiplient et l'ambiance familiale se détériore à vitesse grand V, ce qui peut provoquer des conflits sur plusieurs générations. D'ailleurs, nous aurons encore une fois le rôle de les informer tout simplement et de leur faire prendre conscience des fameux mécanismes mis en place par la société qui se nourrit malheureusement des conflits lors des successions. En fait, la société ne porte pas d'intérêt sur l'information que devrait recevoir tout citoyen sur tous les sujets que l'on évoque depuis le début. Car tout conflit va déboucher fatalement sur des frais d'avocat, de notaire, d'huissier ou autre. Et encore, parfois l'État récupère les biens car les héritiers ne peuvent pas assumer les droits de succession. Dans ce cas-là, je vous laisse imaginer la valeur de ce que récupère l'État, qui est le fruit de toute une vie d'efforts que les retraités avaient fournis dans le but de léguer leurs acquis à leur famille, pas à l'État. L'État qui s'était déjà bien rempli les poches durant toute la durée de vie des propriétaires, au travers des taxes qui leur étaient imposées. Je souligne une nouvelle fois qu'il ne s'agit pas de faire une critique à l'État, mais de faire des constats, de prendre conscience des systèmes mis en place et d'être acteur de ces systèmes et non pas téléspectateur. Comme nous le disons souvent, mieux vaut éviter cela lorsqu'il est encore temps. Et le fait de réunir la famille avant le départ définitif des personnes, même si le fait de se retrouver confronté à la famille peut faire peur, eh bien cela se passe plutôt bien au final. Encore et toujours, nos objectifs pour aider les familles vont être de les protéger. Dans le cas des successions, nous allons protéger les retraités titulaires des biens et leurs héritiers pour mieux encadrer le moment où ces biens deviendront les leurs après le départ. Nous allons entre autres leur parler des taxes liées aux droits de succession et l'impact que celles-ci auront sur les héritiers. Également, nous allons utiliser ce moment pour rééquilibrer la situation si le bien est en nom propre. Ainsi, nous allons proposer des solutions telles que la SCI pour à la fois sécuriser les parents retraités et à la fois préparer la succession pour les héritiers. En conclusion de ce podcast, si vous observez bien depuis le début, nos conseils portent beaucoup au départ sur de l'information et de la prise de conscience des personnes qui nous consultent. Dans le cadre des retraités, nous les invitons à écouter tout ce que je viens d'échanger avec vous. Ensuite, si elles le souhaitent, nous allons analyser à la loupe leur situation et leur parcours pour en dessiner un nouveau, beaucoup plus bonifiant, et ils se rendront compte qu'ils ont des options très intéressantes pour inverser leur tendance, sans pour autant se mettre en danger fiscalement, sans pour autant prendre le risque de perdre leurs droits et en sécurisant leur succession. Tout ce process met du temps. Selon les personnes, parfois nous avons besoin de 5 réunions avant que les personnes se sentent prêtes et intègrent cette prise de conscience. Certaines même ne vont jamais plus loin, d'autant que l'on prévient très rapidement. Il existe de nombreuses solutions, mais ces dossiers ne se montent pas en un seul jour, loin de là. Nous avons besoin de plusieurs mois de mise en place. Nous le signalons souvent. Tout ce qui paraît facile et qui est réfléchi sur du court terme se complique bien souvent ensuite. Tout ce qui semble compliqué au départ, car la réflexion porte sur du long terme, facilite énormément les situations ensuite. Malheureusement, ce message est parfois difficile à faire passer dans une société de consommation comme la nôtre et dans un mode de consommation ultra rapide qui met principalement l'accent sur le court terme. En général, nous avons plusieurs phases avec nos clients. Au début, c'est la découverte de l'info et l'étonnement et l'excitation. Ensuite, arrive la déception, la frustration et la colère même de se sentir piégé par la société. Après, on passe à la réflexion sur la projection dans ce nouveau projet. Enfin, nous pouvons mettre en place la réalisation du projet. Durant toutes ces phases, c'est une véritable mise au monde. Au début, notre équipe est protagoniste et apporte son expertise. Mais assez vite, ces réunions deviennent très participatives et toute la famille envisage ensemble leur avenir. C'est génial et très sincèrement, c'est magique. Et cela devient une aventure humaine qui crée des liens quasi à vie entre notre équipe et la famille. À travers nos méthodes et du fait que nous suivons ces personnes de manière très régulière, traitant de sujets très personnels et souffrants pour les familles, nous tissons un lien fort avec nos clients. Bien souvent, notre démarche est quasi sociale, en même temps qu'on nous apportons des solutions techniques. Nous devenons des confidents, nous avons une écoute aiguë des situations, en nous appuyant bien sûr sur nos années d'expérience au niveau professionnel, mais aussi et surtout sur un plan humain. Sur un mode de recommandation qui se crée naturellement justement par le lien que je viens de décrire à l'instant, nous construisons un réseau extrêmement participatif et collaboratif. Et la magie opère, car avec le temps, les aidés du départ deviennent très souvent aidants ensuite. C'est un véritable cercle vertueux auquel nous participons. Voilà, c'est fini pour ce Zoom. Je vous retrouve dans un prochain podcast.